Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, les bénéficiaires de l'aide sociale ont-ils des comptes à rendre ? Une décision prise par un conseil départemental suscite rarement l'intérêt médiatique national. C'est pourtant ce qui s'est produit suite à la décision de l'Assemblée plénière du Haut-Rhin de revoir les règles de versement du RSA. Désormais sur ce territoire, pour en bénéficier, il faudra s'acquitter en échange de 7 heures de bénévolat hebdomadaire. La perception du RSA était déjà conditionnée à la recherche active d'un emploi, une contrepartie visiblement insuffisante. Inacceptable, a réagi l'association ATD Quart-Monde. Impossible, a de son côté rétorqué la ministre des Affaires Sociales Marisol Touraine. De fait, jusqu'à preuve du contraire, les règles de la solidarité se décident encore au niveau national en France. Le département frondeur risque donc de ne pas avoir les moyens juridiques de sa mesure. Il aura tout de même réussi à mettre le doigt sur un problème de fond. Pourquoi notre système de redistribution, vanté partout pour sa générosité, est-il de plus en plus contesté ? La perception du RSA, des APL et autres allocations familiales est-elle vraiment un privilège ? Les bénéficiaires de l'aide sociale ont-ils des comptes à rendre ? C'est notre sujet du jour. Ils sont trois invités pour en débattre ce soir. Julien Damon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po, fondateur et dirigeant de la société Éclair, une société de conseil et d'études, pour la définir.
Ah oui, c'est parfaitement défini, je vous remercie.
Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'exclusion, la pauvreté. Votre dernier livre, La sécurité sociale au PUF, paru en septembre 2015. À vos côtés pour discuter, Hélène Périvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE, co-directrice du programme Présage consacré aux études sur le genre. Vous êtes aussi spécialiste des politiques de lutte contre la pauvreté. Alors, vous êtes co-auteur avec Bernard Gazier et Bruno Palier, de l'ouvrage « Refonder le système de protection sociale » paru aux presses de Sciences Po en 2014. Et enfin, à vos côtés, Patrick Savidan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université de Poitiers, président de l'Observatoire des inégalités. Et votre dernier ouvrage, « Voulons-nous vraiment l'égalité ?» est paru aux éditions Albin Michel et c'était à l'automne dernier. Alors, On le rappelait, cette polémique suite à cette décision et cette polémique qui s'en est suivie du département du Haut-Rhin sur le versement du RSA. Le sociologue Nicolas Duvoux écrivait dans Le Monde le 13 février, c'est la guerre à la solidarité est déclarée. Est-ce que vous partagez ce sentiment, voire cet alarmisme? Qui veut répondre ? Julien Damon.
Je veux bien répondre, je trouve que Nicolas Duvoux exagère un tout petit peu. Il est exact que ce type de proposition, passée par un vote démocratique départemental, a un brin de caractère choquant, ne serait-ce que parce que c'est absurde que de vouloir obliger les gens à être bénévoles, ou encore plus absurde que de vouloir rémunérer le bénévolat. Si c'est pas une déclaration de guerre à la solidarité, c'est une raison pour le soutenir, que ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est que ça fait de toute éternité qu'on se pose la question des contreparties, des conditions à l'attribution de diverses aides sociales. Si on met de côté l'éternité et qu'on regarde l'histoire du RMI devenu RSA, depuis l'établissement du RMI en 1988, vous avez eu une volonté de conditionner l'attribution de cette aide sociale, pas à du travail rémunéré forcément, pas à du contrat salarié, mais à des devoirs d'insertion. Je pense que c'est un coup politique de ce conseil départemental, que les conseils départementaux dans leur ensemble plus à droite aujourd'hui sont confrontés à une crise financière, d'abord à l'échec du RMI, RSA, rebaptisé, rafistolé dans tous les sens, mais les conseils départementaux ne sont pas forcément les plus méchants. Une raison à cela, c'est que ce sont eux qui n'étaient pas si baptisés alors, on le disait simplement les départements, c'est peut-être d'ailleurs plus simple pour les auditeurs, ce sont eux qui ont inventé le RMI. Je force un peu le trait, mais entre 86 et 88, c'est à l'échelle de conseils départementaux, de conseils généraux de l'époque, qu'ont été pour la première fois conçus des revenus minimums pour les ressortissants sur un territoire.
Hélène Périvier, c'est oui. La guerre contre la solidarité ou pas ?
Disons que c'est certainement un dosage différent entre le mérite et la solidarité. C'est vrai que depuis toujours, les politiques de lutte contre la pauvreté, mais on peut remonter aux grandes lois anglaises de lutte contre la pauvreté sous Élisabeth Ière, ont toujours fait l'objet de critiques. Est-ce qu'on ne va pas instaurer une culture de la pauvreté? Est-ce qu'on ne va pas faciliter l'oisiveté de ces individus qu'on aiderait trop? Donc il y a toujours eu cette idée de contrepartie, de pauvreté méritante derrière ces politiques de lutte contre la pauvreté. Mais ce dosage entre le mérite et la solidarité, il varie au cours du temps. On peut dire que dans la France des années 80, il y avait plutôt un dosage de solidarité, même si dans le RMI, il y avait le I d'insertion, il y avait une nécessité d'insérer les gens dans l'espace social, pas nécessairement par l'emploi, mais en tout cas, essayer de les prendre en charge pour qu'ils ne soient pas exclus. Et là, clairement, on voit avec le RSA, on a déjà vu un basculement avec l'idée que le travail doit payer, donc les gens doivent être incités, c'est important que le travail soit rémunérateur. Donc il y a eu toute une rhétorique autour de cette idée-là et on voit qu'on a un dosage maintenant différent. Donc je l'interpréterai plutôt en termes de dosage qui met l'accent davantage sur le mérite que sur la solidarité.
Patrick Savidan, pour terminer le tour de table.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je me retrouve en partie dans ce qu'elle désigne, mais s'il y a quand même pas, il y a un coup, hein, ça c'est clair, Julien Damont a tout à fait raison, il y a un coup politique, mais il y a un coup double. C'est-à-dire que, à la fois, il y a une tentative pour une collectivité qui, en effet, et comme toutes les collectivités locales, en butte à des difficultés financières structurelles, tout simplement parce que certains financements sont pas arrivés et que la charge de la pauvreté, de l'aide sociale a augmenté de manière très importante au cours des dernières années. Et donc, il y a une tension, il y a une manière là de se positionner aussi dans un dialogue et dans une négociation avec le gouvernement sur la question de savoir qui va financer quoi dans l'avenir.
En demandant des heures de bénévoles aux bénéficiaires, on ne va pas résoudre le problème de tension économique, de manque de moyens pour payer le RSA auquel se retrouvent confrontés.
C'est le deuxième coup, c'est-à-dire que on pouvait pas présenter les choses aussi simplement, il fallait aussi dire qu'il y avait une sorte de légitimité finalement à reconsidérer ou renégocier les termes de la solidarité en insistant sur les devoirs de l'insertion et en exigeant qu'elle se manifeste concrètement, pas simplement par le fait de manifester le désir de trouver du travail, mais par une activité effective qui a... Et il y a un autre aspect, pour aller dans le sens aussi de Julien Damont, il y a un autre aspect, c'est que c'est présenté aussi comme une manière de reconstruire du lien social pour des personnes qui peuvent être très loin de l'emploi pendant longtemps. Donc si on brosse à grands traits le paysage de cette décision-là, il y a une question budgétaire, il y a une question effectivement politique au sens où c'est une manière aussi de surfer sur une vague de durcissement à l'égard de la solidarité, comme Hélène Périvier l'a rappelé, et puis il y a en même temps une manière de renégocier des rapports à la solidarité qui sont inscrits dans un temps très très long. Hein.
Alors on l'a rappelé, le RSA n'est pas sans contrepartie actuellement, il est soumis à l'obligation de chercher activement un emploi, c'est la formule consacrée. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas suffisant comme contrepartie pour que le reste du corps social accepte qu'une partie de la population perçoive de l'aide? Julien Damont.
Oui, sur le RSA, vous l'avez dit également en introduction, mais comme c'est une prestation extrêmement compliquée, on peut tous se tromper, je vais essayer de ne pas me tromper, mais en l'espèce, tous les allocataires du RSA ne sont pas obligés de chercher un emploi. Vous avez trois en réalité, famille d'allocataires du RSA. Une première famille, c'est comme l'ensemble des chômeurs, des obligations de pointer au chômage, ce serait l'expression que tout le monde peut comprendre, mais qui concerne également des obligations. Un autre président de conseil départemental s'en est encore fait l'écho, mais ceci est dans les textes. Vous êtes obligé, au bout de deux propositions d'emploi qui peuvent correspondre à votre CV et à vos souhaits, de le prendre, cet emploi, sinon on vous coupe votre prestation.
Faites référence à Éric Ciotti dans
exactement.
Les Alpes-Maritimes.
Oui, mais là, il n'a fait que rappeler, en frappant du poing sur la table, les textes, en se trompant, comme dans notre petite discussion que je vais chercher à éclairer, il est une partie, et la majorité même, des allocataires du RSA qui sont, si vous voulez, sur le registre du chômage. Hein, ils sont inscrits à Pôle emploi, et comme les autres inscrits à Pôle emploi, ils ont les mêmes obligations, les mêmes de voix. Vous avez une autre partie des allocataires du RSA, ils sont bien moins nombreux, ce sont ceux qui cherchent à créer leur activité, créer leur entreprise. Ils n'ont absolument pas les mêmes devoirs à l'égard de Pôle emploi. Et il est une autre partie de la population qui est très éloignée de l'emploi et pour lesquelles le conseil départemental, chacun des conseils départementaux avec des politiques différentes, il est vrai, passe une convention de manière à ce qu'ils s'insèrent par d'autres types d'activités. Donc il n'y a pas systématiquement obligation de recherche d'emploi dans le RSA, même si c'est vrai dans la plupart des cas. Ceci pourrait être d'ailleurs une réforme plus générale de l'ensemble de l'aide sociale, dont on pourra dire quelques mots par la suite.
Mais en tout cas, il y a une demande de l'autre côté d'établir des contreparties qui seraient plus claires, plus contraignantes.
Ça m'amène à un petit mot, parce que si on a parlé des workhouses, de l'Angleterre, d'Elisabeth Ier, etc., on oublie tout simplement ce qui s'est passé il y a un tout petit peu plus de 10 ans en France, quand le Parlement a créé le revenu minimum d'activité. Avec exactement cette déclaration de guerre contre la solidarité qui était dit, oh là là, le RMI, le I de l'insertion ne fonctionne pas, les pauvres foutent rien, allez hop, faut les faire bosser, il va y avoir une obligation d'avoir une activité. Ça a été voté par les parlementaires et en gros, les esprits chagrins murmurent qu'il y aurait eu à peu près autant de bénéficiaires de ce dispositif RMA que de parlementaires qui se sont étripés pour en parler. Parce que c'est extrêmement compliqué si on veut mettre tout le monde en activité bénévole ou salarié. Ça impose une bureaucratie considérable parfaitement inutile.
Hélène Périvier.
Oui, je crois que ce qu'on peut quand même souligner dans ce type de mise en perspective de l'aide sociale, c'est qu'on est quand même dans un pays où on a un taux de chômage extrêmement élevé. Et malgré tout, on cherche, en tout cas, on cherche à mettre en cause la bonne volonté que peuvent avoir certains individus à chercher du travail. Mais on peut quand même assez honnêtement penser que quand on a un taux de chômage à ce niveau-là, les raisons pour lesquelles ces personnes sont pauvres, ou en tout cas sont sur au RSA, c'est certainement pas parce qu'elles ne trouvent pas de travail. Donc ça, c'est assez évident. Donc dans cette volonté de remettre une dose de mérite dans l'aide sociale, il y a quand même bien l'idée que cette aide n'est pas complètement méritée ou que peut-être elle est trop généreuse. Donc on est quand même là dans une entreprise qui vise à remettre en cause les fondements d'une solidarité qui pourrait être inconditionnelle ou en tout cas prendrait en compte l'état économique du marché du travail.
Patrick Savidan, depuis votre observatoire des inégalités, est-ce que vous constatez que les prestations sociales sont de moins en moins perçues comme des droits?
En tous les cas, ce qu'on a pu observer et ce dont on s'est fait l'écho au niveau de l'Observatoire des inégalités, c'était un certain nombre d'études qui n'étaient pas menées par l'Observatoire des inégalités, mais le Crédoc et d'autres, qui ont pointé effectivement une forme de durcissement de la population française à l'égard de certaines formes de solidarité. C'est-à-dire que on a pu remarquer sur certains types d'aides, comme par exemple le RSA justement, que de moins en moins de Français estimaient qu'elle était insuffisante. Alors que jusqu'en 2009, il me semble, on était plutôt sur une demande de progression, d'augmentation du montant du RSA. Depuis 2012, on est plutôt sur le reculoir, c'est-à-dire que les gens pensent qu'on en fait suffisamment pour les pauvres, en quelque sorte. Donc il n'y a plus une demande d'augmentation. De la même manière, on a pu constater que de plus en plus de Français estiment qu'on accorde une part excessive de nos ressources publiques au budget social de l'État. Donc il y a quand même, d'une certaine façon, une forme de durcissement qui peut s'expliquer par de nombreuses raisons, notamment la question du durcissement lié aux difficultés qu'il y a à s'insérer professionnellement. Et donc, là, une concurrence. Les gens sont tous en situation de plus en plus difficile, en tous les cas pour une très grande partie d'entre eux. Et donc, dans ce contexte-là, ils estiment avoir de moins en moins de marge de manœuvre, eux, en tant que famille, pour aider, ou en tant qu'individu, pour aider. Donc, ça se effectivement traduit par un certain nombre de désengagements, je dirais.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'effritement que vous nous décrivez, du consentement à l'existence de prestations sociales comme droit, et qu'est-ce qu'on peut faire face à...
Sur un temps court, il est inédit, donc je pense qu'il est inquiétant. Sous cette forme-là, dans la façon dont il se manifeste, c'est-à-dire recul sur la question de la réciprocité, insistance davantage sur des questions de conditionnalité, remise en cause de l'universalité de certaines aides, donc on peut dire qu'en soi, sont à chaque fois des petites évolutions, mais elles sont concordantes et elles indiquent bien qu'on ne va pas exactement dans une direction qui pointe vers plus de générosité ou plus de solidarité.
L'enjeu, Julien Damon, c'est la cohésion nationale derrière les politiques sociales.
En tout cas, c'est la solidarité nationale qui est le premier principe que l'on trouve au premier article du Code de la Sécurité sociale. Ça n'est donc pas rien. Mais si on peut avoir quand même des petits désaccords autour de cette table, ça peut être intéressant. Je pense qu'en effet, il y a un durcissement. Mais c'est absolument pas la première fois, c'est pas pour répéter ce qu'elle en a déjà dit, mais ce croisement de la courbe des opinions favorables au RMI et des opinions défavorables au RMI, on l'a connu en réalité au début des années 2000. Donc on a créé un autre truc, et tout le monde a applaudi en disant c'est formidable, mais il n'y a plus ce RMI au nid, il y a ce RMA. Ça s'est complètement planté. Le RSA a été créé sur les ruines extrêmement critiquées du RMI. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, de nombre de conseils départementaux, on entend finalement des choses qu'on a déjà entendues énormément de fois, avec, je l'ajoute, je le ressouligne, de l'aberration. Il faut quand même marcher sur la tête, la gauche, mais surtout la droite, c'est vrai, le prononce là, pour vouloir rémunérer et obliger les bénévoles. Ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. Ça, c'est sur l'opinion. Sur la conjoncture, Hélène Périvy a parfaitement raison. En période de chômage qui augmente, il est encore plus difficile d'aider les gens qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et pour sauver le soldat RSA, il faut souligner, à mon avis, qu'il a été envisagé, et on peut en critiquer les fondements, le contenu, tout ce que l'on veut, il a été envisagé en période où le chômage régressait, c'est-à-dire dans les années 2005, 2006, 2007. Et aujourd'hui, on veut faire au RSA ce pourquoi il n'est pas fait, c'est-à-dire on veut le faire lutter contre le chômage structurel grandissant, alors qu'une de ses grandes ambitions, et c'est d'ailleurs sa première caractéristique, c'est de donner des moyens convenables d'existence et d'aider les gens à s'insérer, donc à prendre un emploi. Mais c'est encore plus difficile dans une conjoncture marquée par un chômage qui augmente.
Hélène Derivier,
oui, par ailleurs, dans le RSA, donc c'est effectivement une prestation qui a été assez mal pensée, qui est assez usine à gaz, extrêmement complexe à comprendre, qui est à la fois assise sur la famille, parce que là, il y a quand même une grande ambiguïté du point de vue de l'aide sociale. C'est-à-dire qu'on lutte contre la pauvreté en mesurant la pauvreté au niveau du ménage, donc de la famille. Donc on va donner un RSA qui va tenir compte du nombre de personnes présentes dans le ménage, un couple avec des enfants, etc. Et par ailleurs, on a cette obligation qui est en lien avec l'emploi, qui là est individuelle. Donc à qui demande-t-on d'avoir un emploi pour justifier le fait que cette famille touche le RSA. Là, depuis le début, dans le RSA, il y a une très grande ambiguïté et on voit très bien, par exemple, qu'il y a une plus grande souplesse au regard de l'insertion des femmes sur le marché du travail dès lors qu'elles sont mariées. Il n'est pas du tout insoutenable pour la société que cette femme ne travaille pas et que la famille touche le RSA parce qu'on va mettre en avant l'idée que cette femme est une mère, qu'elle s'occupe de ses enfants. Donc là, il n'y a pas du tout cette exigence d'être impliquée plus ou moins dans une activité économique, alors que cette femme se sépare de son conjoint, on va immédiatement lui demander de montrer sa bonne volonté à vouloir s'insérer sur le marché du travail. Donc là, il y a une vraie tension qu'on n'a pas résolue dans les politiques sociales, qui est entre j'aide l'individu, j'exige de l'individu, et en même temps, je vise la famille, puisqu'il faut bien tenir compte du niveau de vie des personnes et donc prendre en compte les charges familiales qu'elles ont. Donc là, il y a encore quelque chose qui est très ambigu dans le RSA et très mal soulevé par cette approche qui consiste à obliger les gens à faire du bénévolat pour justifier la perception d'une aide sociale.
Pour sortir peut-être un petit peu du cas spécifique du RSA, dans un ouvrage fameux du contrat social paru en 1762 par Jean-Jacques Rousseau, il écrivait « L'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n'a rien de trop. » Est-ce que ça veut dire que la condition de la solidarité, c'est la conviction qu'elle bénéficie également à tous ? Patrick Savidan.
Oui, parce que d'une certaine manière, je rebondis aussi sur ce que disait Julien Damon. En fait, la crise de l'État-providence, on en parle depuis les années 70, le milieu des années 70, c'est-à-dire à partir du choc pétrolier, on a considéré qu'il y avait un niveau de croissance qui permettait plus d'alimenter en quelque sorte la machine. Mais ce que je voudrais souligner, et Rousseau va bien dans ce sens, c'est que la situation effectivement plus difficile économiquement pour beaucoup de gens, mais elle n'est pas plus difficile économiquement pour tous. Il y a des inégalités extrêmement importantes qui se sont manifestées depuis les années 80-90, qui n'ont cessé de croître de plus, crise ou pas crise. Donc la question, c'est pas toujours, elle n'est pas toujours simplement mécanique, c'est-à-dire on a un niveau de croissance qui n'est plus suffisant, qui doit payer les pauvres en quelque sorte, d'une certaine manière. En tous les cas, c'est sur eux qu'on va faire pression. Mais dans le même temps, si on regarde l'ensemble des données, ce qu'on remarque, c'est que pour 30-20% de la population, les choses ne vont pas si mal. C'est-à-dire que même après 2007, même après 2008, c'est-à-dire période de crise liée à une crise financière qui a beaucoup bénéficié à certains, eh bien ceux qui ont beaucoup bénéficié de ce qu'on appelait la bulle spéculative se sont pas trouvés fondamentalement gênés par la crise qui en a résulté. En revanche, pour 60% de la population française et classe moyenne faible et classe défavorisée, en revanche, la situation était très dure. Donc il y a quelqu'un qui a payé le prix de la crise, si on veut, et là, en revanche, c'est politique, je crois. Et donc, de ce point de vue-là, Rousseau est tout à fait éclairant, parce que l'écart c'est ce qu'il veut dire, hein, l'écart des inégalités sociales, économiques, a pour effet de se traduire en inégalités politiques, en tous les cas, en une certaine manière d'orienter les politiques publiques. Très clairement, elles ne sont pas orientées dans l'intérêt des plus défavorisés aujourd'hui.
L'écart entre les revenus est plus insupportable qu'un revenu faible, Julien Damon ?
Ah, de fait, ce sont les frustrations relatives qui nous motivent ou qui nous empêchent d'être heureux. Et il est exact que dans des pays dits à pauvreté intégrée, où tout le monde est pauvre, où tout le monde est très pauvre, il peut y avoir un sentiment d'abandon, de politique publique qui n'existe pas, de la corruption dans tous les coins, etc., etc. Mais on a moins de critiques à l'égard des autres catégories de la population, sinon une super élite généralement prédatrice. Nous, dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est vrai, et la situation française est bien singulière, ce sont les inégalités que l'on veut combattre et pas la pauvreté. Mais je voudrais dire un mot sur Rousseau quand même, la phrase que vous avez citée, puisqu'il cite l'état social, mais surtout il dit qu'il faudrait que personne n'ait rien en trop. Ça me fait penser à un des grands fidèles de Monsieur Rousseau qui était Kyu Sampan, donc un des leaders des Khmers Rouges, et qui disait à son procès « Je ne comprends pas, nous avons simplement voulu mettre en œuvre les idées de Rousseau ». Je pense qu'il y a un égalitarisme radical, même dans cette phrase, qui est préoccupant. Derrière Rousseau, il y a mieux, il y a certaines affirmations quand même de la Révolution française sur notre affaire d'aide sociale, avec cette formule importante qui est les secours publics sont une dette sacrée de la nation. Et si on revient pas qu'au RSA, mais aux bagarres actuelles, c'est la nation qui est concernée, et c'est pas chacun des petits conseils départementaux dans son coin, et c'est pas des machins avec lesquels on bidouille, on mettra en doigt des gens, c'est une dette sacrée que collectivement, on doit aux plus faibles. Et de là à faire comme Rousseau surtout, c'est peut-être plus embarrassant.
Rousseau, je précise quand même, le faisait dans un contexte où il défendait l'idée que les différences ne sont pas toutes à résorber. Hein. C'est-à-dire que là, contrairement à l'interprétation maximaliste...
De Kyu Sampan, c'est pas la mienne,
oui,
hein, bien sûr.
Oui, mais enfin, non, mais oui, Rousseau se retrouve quand même en mauvaise posture et en mauvaise compagnie. Non, Rousseau voulait simplement dire on va pas supprimer toutes les inégalités. En revanche, il faut s'assurer que personne n'est à ce point des avantages dans la société que le droit finisse par basculer de son côté. C'est tout ce qu'il voulait dire.
Et en ce sens, peut-être qu'il faut lire la décision du gouvernement de créer un secrétariat à l'égalité réelle. On en parle beaucoup en ce moment.
Moi, je comprends pas trop la notion. J'espère que jusqu'à présent, c'est bien l'égalité qu'ils visaient réellement. Donc là, maintenant, ils ont besoin de l'afficher davantage. Oui, oui. Je sais pas ce que ça signifiera concrètement, mais.
Ah oui, il y a un sujet. C'est la droite va peut-être faire, en revenant au pouvoir, en mettant un homme au pouvoir, un secrétariat d'État,
fausse égalité.
Chargé à l'inégalité réelle. Ouais.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Les bénéficiaires de l'aide sociale ont-ils des comptes à rendre ? C'est la question dont nous débattons ce soir avec Julien Damon, Hélène Périvier et Patrick Savidan. On l'évoquait tout à l'heure, Hélène Périvier, si la France était plus prospère, est-ce que la tension autour de ces questions de redistribution des richesses serait moins forte ?
Bah, c'est sûr que quand il y a moins de problèmes pour tout le monde est plus enclin à partager. Plus il y a de ressources, plus c'est facile. Mais le glissement qu'on peut voir avec le type de mesures qui sont proposées, en tout cas par ce département, c'est que on est passé d'une logique où on voulait rendre le travail payant, ce qu'on appelait making work pay, donc faire en sorte que quand on travaille, ce soit rémunérateur. Ça, c'était totalement le RSA. Et là, on passe à une autre logique qui est celle de making rich pay, c'est-à-dire faire en sorte que les riches soient consentent à l'impôt pour qu'on puisse financer des aides sociales. Et donc là, on est dans une logique où il faut donner des gages. Il faut donner des gages à une certaine partie de la population qui, pour qu'elle consente à participer à cette solidarité nationale, n'ait pas le sentiment que c'est quelque chose qu'on verse dans le vide et que ces personnes-là sont bien responsables de leur situation, d'une certaine façon, et qu'elles doivent montrer leur bonne volonté à s'en sortir. Et si on regarde, sans regarder la perspective historique, mais la perspective géographique, et si on compare avec ce qui a pu se faire aux États-Unis de façon extrêmement violente dans les années 90. Alors bien sûr, heureusement, la France, on est très 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 loin de ça. Je vois Julien Darmon qui tout de suite voit que j'exagère.
Pas du tout.
Mais je trouve que c'est intéressant de voir ce qui a pu être fait aux États-Unis dans les années 90 sous un gouvernement, enfin sous une présidence démocrate, celle de Bill Clinton. S'est opérée une réforme extrêmement violente de l'aide sociale, donc le peu de programmes sociaux qu'avaient les États-Unis en direction des mères isolées. C'est venu être conditionné à une exigence d'activité très forte pour ces femmes. Donc l'idée, c'était qu'elles devaient travailler au moins 30 heures par semaine pour pouvoir percevoir cette aide, en y ajoutant qu'elles ne pourraient pas percevoir plus de 5 ans d'aide sociale dans leur vie, parce qu'il fallait quand même pas trop exagérer en matière de générosité. Donc ce glissement s'est opéré, en tout cas le tournant Reagan a permis ce glissement-là, et on est passé de « il faudrait pas que ces pauvres soient feignants » à la culture de l'autonomie, il faut que ces gens soient autonomes, il faut les émanciper, mais vous voyez ce que ça produit. On arrive quand même à produire un dispositif social qui oblige les gens à prendre un emploi, quel que soit cet emploi, même si cet emploi est absurde, même si cet emploi n'est pas une activité économique réelle, au nom d'une espèce de certaine vision du mérite et de cette redistribution qu'on va opérer des riches vers les pauvres. Donc là, il y a quand même derrière ces idées-là un glissement qui me semble assez dangereux.
Et en même temps, Hélène Périvier, vous parlez d'autonomie, vous parlez de préférence pour l'emploi par rapport aux allocations. Tout n'est peut-être pas à jeter non plus dans cet argumentaire.
Non, peut-être pas, mais c'est quand même important de garder en mémoire que la lutte contre la pauvreté par l'emploi, c'est-à-dire l'idée qu'on va lutter contre la pauvreté en remettant les gens en emploi, ça exige d'avoir un marché du travail dynamique et une croissance économique qui permet de le faire. En aucun cas, ça n'est crédible dès lors que vous avez un marché du travail atone et un taux de chômage extrêmement élevé, avec un taux de chômage de longue durée très élevé. Donc, il faut aussi avoir une certaine vision de l'efficacité de ces politiques publiques.
Patrick Savidan.
Pour aller dans le même sens, il y a quand même une histoire longue de cette manière qui est en fait de moraliser la question de la pauvreté, c'est-à-dire l'appréhender sur le terrain des valeurs, la question de l'éthique, tout simplement aussi pour rallier soit des supports suffisants pour le financement de l'aide sociale, soit au contraire pour justifier le fait de se désengager. Et ça, c'est une tendance très très lourde qu'on pourrait rattacher à des origines très anciennes, au XIVe siècle. On retrouve des discours extrêmement critiques à l'égard des pauvres.
On parlait déjà d'assistanat au XIVe siècle.
Pas exactement d'assistanat, on avait d'autres manières de
en
dire.
Latin.
On disait en 1351. C'est Robert Castel qui le citait, une ordonnance de Jean le Bon qui expliquait que si vous donnez l'aumône, c'est très bien, mais ne la donnez jamais aux gens sains de corps et d'esprit qui peuvent besogne faire. Donc il y avait cette idée que le travail est un devoir. Le souvenir aussi d'un journaliste anglais au 19e siècle qui nourrissait ses chroniques d'observation et quasiment ethnographique de la pauvreté dans Londres et qui avait pour objectif, en fait, de produire une sorte de taxinomie qui visait à distinguer le bon pauvre du mauvais pauvre. Et dans le bon pauvre, il y a pour reprendre les catégories un petit peu tout à l'heure, les trois catégories du RSA, il y avait le bon pauvre qui fait des efforts, il y a le bon pauvre qui est imprévoyant, il y a le bon pauvre qui est, etc. Et ensuite, qui reçoit des secours, qui n'en reçoit pas. Et donc, il y avait une sorte d'organigramme de la pauvreté et des pauvres qui étaient en quelque sorte produits. Et ça, c'est très ancien. C'est une manière de se dire, celui-là mérite d'être aidé. Par contre, les autres n'en font pas suffisamment. Et là, ça devient très gênant parce que c'est fluctuant, c'est susceptible de faire l'objet d'interprétations politiques, d'instrumentalisation politique. Et en un sens, le Conseil général du Haut-Rhin essaye de réinventer une sorte d'organigramme, à mon sens, de la pauvreté, mais à sa façon, avec moins de détails, mais pas moins de brutalité, il me semble.
Votre avis, Julien Damon, sur cette question, c'est d'abord une certaine vision du pauvre et puis peut-être de la nature humaine derrière la décision donc encore une fois du conseil départemental du Haut-Rhin de verser les allocations du RSA en échange d'heures de bénévolat.
Oui, c'est en effet, je pense, une vision qui s'est progressivement cristallisée, faisant le bénéficiaire du RSA un chômeur qui n'est pas précautionneux, bossant un peu au noir à côté, truandant l'assistance et qu'il faut remettre au pas. Enfin, c'est pas aussi violent que du temps de Jean II le Bon, puisque ce qui était cité comme texte, c'était le premier texte qui condamnait le vagabondage et la mendicité, et ça allait jusqu'à la peine de mort. Donc, ça n'en est pas là.
On est très loin, on est bien d'accord.
C'est pas la guerre éternelle à la pauvreté qui revient, mais c'est vrai qu'il y a cette catégorie du bon et du mauvais pauvre que l'on trouve dans toute l'aide sociale. Vous avez énormément de minima sociaux qui existe, à côté de ce RSA dont on parle tant, et quand on entend parler d'aide sociale et d'assistanat en général, il y a énormément de gens qui reposent juridiquement sur l'aide sociale pour vivre, en particulier des personnes âgées qui ne sont pas incitées à travailler puisque de toute manière elles ont dépassé l'âge de départ à la retraite. Il y a des personnes handicapées également qui bénéficient d'une autre allocation qui concerne presque autant de personnes que le RSA de base, l'allocation aux adultes handicapés. Et là, il n'y a aucun conseil départemental ou aucune formation politique qui dira « Ah, bon, on va les faire bosser ces handicapés-là ». Donc, bien sûr, il y a cette coexistence de visions différentes sur la pauvreté et ces pauvres bénéficiaires du RSA montrés du doigt. Moi, ma position là-dessus, c'est que le RSA est un plantage, qu'il est à reconsidérer au milieu des autres prestations.
Dans son esprit, Julien Damon.
Dans son esprit, ce qui est sorti du Parlement, Hélène Périvier l'a évoqué tout à l'heure, est un truc absolument incompréhensible qu'on a cherché à simplifier là en créant d'un côté la prime d'activité et de l'autre en conservant le RSA qui est l'ancien RMI, mais déjà ça n'a pas grand intérêt pour ceux que le sujet n'intéresse pas immédiatement, mais l'idée générale, et qui était assez géniale du RSA, était de fusionner un ensemble de prestations, qui étaient les prestations de minima sociaux, les allocations logement, les prestations familiales et certains dispositifs fiscaux. Et si on les avait individualisés, c'est-à-dire, ça c'est la préoccupation d'Hélène Périvier que je partage, qui est de ne pas s'intéresser à la famille des gens, mais de s'intéresser aux gens individuellement, il pouvait y avoir une belle révolution sociale positive avec le RSA, dans un contexte où, en effet, le marché du travail était plus dynamique quand on l'envisageait en 2005. Et aujourd'hui, on se tape dessus sur un sujet qui est capital, qui est le chômage.
Alors peut-être est-ce dû justement à sa complexité, mais on estime à peu près que 35% des bénéficiaires potentiels du RSA socle et 68% de ceux qui pourraient toucher la prime d'activité ne le donnent demande pas. C'est un chiffre que nous avons. 28% de ces personnes disent ne pas vouloir dépendre d'une aide de l'État dans ce refus de demander l'assistance de l'État. Est-ce qu'il faut voir quelque part aussi une forme de contestation du système, mais par les bénéficiaires même de l'aide, Hélène Périvier?
Bah oui, d'abord, c'est un échec. C'est un échec d'avoir une politique sociale qui n'est pas demandée par les gens qu'on cible. Et même parfois, on a l'impression que le gouvernement souhaite même que les gens qui ils sont éligibles ne le demandent pas pour réduire les dépenses publiques. Non, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui doit nous questionner. C'est probablement... Alors, il y a l'idée que ce dispositif est très compliqué et que beaucoup de gens ne le comprennent pas forcément, me semble un facteur important, mais il y a un facteur stigmatisant. Et ce type de démarche qui consiste à essayer d'exiger de ces personnes de rentrer dans l'emploi ou de montrer qu'à minima, ils veulent bien faire un peu de bénévolat, mais ça ne fait qu'accroître cet effet de stigmatisation puisqu'on leur fait comprendre que ce n'est pas un dû, que c'est quelque chose qu'ils doivent mériter. Et de fait, il y a une partie des gens qui vont renoncer à cette aide. Alors que précisément, si on l'a voté dans un espace démocratique, c'est parce qu'on a tous décidé que cette aide était tout à fait nécessaire à la vie de ces personnes. Donc, je crois que là, il faut vraiment se questionner en matière d'action publique. C'est un grand échec d'une politique sociale de ne pas être demandé, ou en tout cas avoir un taux de non-recours de ce niveau-là.
Patrick Savidan, quelle est votre analyse sur cette question du non-recours?
Je rajouterai rien quasiment à ce qui a été dit par Hélène Périvier. C'est effectivement déjà un constat d'échec. D'autre part, c'est lié à des complications, à une manière de contrôler, une ambiance de flicage un petit peu marquée, qui rend les choses à la fois difficiles pour les personnes qui devraient être les bénéficiaires de ces aides, mais aussi pour les personnes qui sont en position de devoir attribuer ces aides. On le dit pas suffisamment, les travailleurs sociaux sont dans une sorte de crise professionnelle assez grande, en tous les cas ceux que je rencontre, tout simplement parce que on leur demande bien souvent de faire un travail pour lequel ils ne sont pas préparés, pour lequel ils ne se sentent pas l'étoffe en quelque sorte, qui est de contrôler les personnes, de vérifier jusqu'à quel point ces personnes sont déterminées à se réinsérer professionnellement, etc. Ce sont des choses compliquées qu'on demande aux gens à faire sur le terrain, et de ce point de vue-là, effectivement, ça peut contribuer à rendre la politique inopérante, et en tous les cas, expliquer les non-recours.
Julien Damon.
Sur les travailleurs sociaux et le non-recours. Sur le travail social, pour avoir une idée de la difficulté incontestable des travailleurs sociaux, il faut prendre en considération ce qu'est l'aide-mémoire du travailleur social. Alors, c'est publié dans une des revues spécialisées qui s'appelle Les Actualités Sociales Hebdomadaires. Et il y a une dizaine d'années, l'aide-mémoire du travailleur social tenait sur deux pages, on va dire, en Times du Roman 12. Aujourd'hui, il tient en quatre pages, en Kamps du roman 9. Ils ont à digérer, c'est très précis, je ne sais pas si c'est exactement 9, 8 ou 10, on s'en fiche, mais c'est passé de 2 pages à 4 pages, et c'est absolument incompréhensible pour le commun des mortels et pour les travailleurs sociaux qui n'ont pas à digérer une législation hyper élaborée. Sur le non-recours, je voulais dire un mot parce que j'ai une position particulière sur la question. On a ces chiffres qui sont devenus des chiffres au cœur du débat public, de 30% de non-recours, enfin un tiers de non-recours au RSA socle, en français au RMI, et de 68% de non-recours au RSA activité qui était censé aider les gens à reprendre une activité. Je pense qu'on oublie fondamentalement, dans ces deux tiers de personnes qui n'auraient pas cherché à avoir accès au RSA activité, le fait qu'ils bénéficiaient d'une autre prestation à côté, qui est une prestation fiscale, qui était la prime pour l'emploi. Pardon, c'est un peu techno, mais c'est assez fondamental. Ça revient aussi à ce qui a pu être évoqué comme raison du non-recours. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vous faire vérifier vos ongles des pieds, des mains, vos ressources, votre vie familiale, conjugale, une fois tous les trimestres, enfin 4 fois par an, par les caisses d'allocation familiale, pour 10 à 20 euros en plus par trimestre ou par an, puisque vous aurez quand même la prime pour l'emploi qui vous sera servie par l'administration fiscale, je comprends pleinement que les gens qui auraient pu avoir le RSA activité se satisfassent seulement de la prime pour l'emploi. Comme aujourd'hui on a fait cette prime d'activité, remplaçant ce système, fusionnant RSA activité et PPE, donc on fait un pari de recours.
2016,
on fait un pari de recours à 50%. On se dit, il y a la moitié des gens qui vont avoir recours à cela. Et au bout d'un mois de mise en œuvre, on a déjà dépassé ce seuil. Moi, mon pari, c'est qu'on va faire de 90 à 100% de recours. Et donc, les finances publiques, sur ce dossier, on va avoir des gens tout rouges, tout verdâtres, terrorisés, parce qu'on verra qu'on a un peu raconté n'importe quoi sur le RSA. Il n'empêche que le point assez capital, je trouve, sur lequel je pense qu'on est parfaitement d'accord, c'est que vous avez une oppression bureaucratique des pauvres, et c'est inutile pour ces gens, coûteux pour les finances publiques aussi.
Vous l'avez dit en début d'émission, les prestations sociales en France ont été pensées à une époque où il n'y avait pas ce chômage de masse. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir, à revoir presque toute l'architecture du système de protection sociale et peut-être aussi la philosophie qui va avec, Hélène Périvier?
Ça, c'est une grande question. Il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord sur un niveau, déjà un niveau de redistribution, parce qu'on ne peut pas penser simplement les dispositifs d'aide sociale sans penser les dispositifs de prélèvement de l'impôt, par exemple. On a déjà beaucoup à faire en matière fiscale. Avoir un impôt lisible, progressif, large, qui puisse être plus individualisé, ça permettrait aussi de voir comment est-ce qu'on redistribue. Alors après, il y a plein de possibilités. Il y a tous les débats autour d'un revenu universel ou d'une allocation universelle. Mais tout ça dépend aussi de la progressivité, de la façon dont on prélève l'impôt. Donc on ne peut pas penser simplement la question de l'aide sociale de façon isolée. C'est l'ensemble de l'architecture des prélèvements fiscaux et sociaux qu'il faut qu'on arrive à mettre en cohérence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine forme de complexité, mais c'est pas simplement propre aux aides sociales, c'est propre à énormément de dispositifs. Donc l'impôt sur le revenu dont je parlais tout à l'heure est aussi extrêmement complexe. L'articulation entre différents dispositifs qui se sont juxtaposés pour essayer de coller au mieux à la réalité des gens, parce que c'était quand même aussi ça. Bah peut-être qu'il est temps de remettre tout ça à plat, de voir quel niveau de redistribution nous souhaitons avoir dans notre pays, quelle forme la solidarité doit prendre. Mais là, c'est un grand débat public qu'il faut ouvrir et qui me semble extrêmement important, notamment en matière d'efficacité, de lutte contre la pauvreté.
Le revenu de base, donc l'idée qu'il n'y aurait plus de prestations sociales différenciées, mais un revenu le même pour tous, et ensuite à chacun de décider s'il veut travailler, cotiser, s'assurer de son côté, de quoi combler nos aspirations bien françaises à l'égalité, Patrick Savidan?
Écoutez, ça c'est un dossier extrêmement compliqué. Je répondrai en deux points. La première, je crois, par rapport à la question de refondation, je pense qu'il y aurait une sorte de refondation aussi de la manière dont on envisage la solidarité et la manière dont l'argent se redistribue et les services se redistribuent à l'échelle de la société, parce qu'on a construit une catégorie extrêmement stigmatisante d'assistés et qu'on a identifié à des catégories particulières de la population. Mais il faut bien voir que la solidarité, elle s'exprime aussi par les services publics, par une école relativement peu coûteuse et de bonne qualité, par des hôpitaux, par des services de sécurité un petit peu partout sur le territoire. Et de ce point de vue-là, tout le monde n'en bénéficie pas non plus de la même manière et dans les mêmes proportions. Donc, si on devait regarder qui est véritablement assisté, c'est-à-dire qui capte le plus et le mieux de la ressource publique, on aurait sans doute des surprises. À mon avis, les pauvres n'ont pas de soucis à se faire. C'est pas les assistés, sont pas ceux que l'on croit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'allocation universelle, ce que vous imaginez, il y a quelque chose d'extrêmement séduisant dans cette idée-là parce qu'elle est, simplifiante. Donc Julien Damant va trouver ça merveilleux de ce point de vue-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit plus de bureaucratie d'une certaine manière, on a une sorte de droit de tirage sur une somme particulière et puis finalement, après, c'est de la responsabilité individuelle des individus, en tous les cas, de voir comment ils veulent gérer leur vie, puis s'ils s'en sortent pas, ils s'en sortent pas. Il y a des problèmes qui renvoient à la question du financement d'une allocation de ce type, son inconditionnalité peut poser problème. Et puis surtout, la question est de savoir ce qu'on fait après. C'est-à-dire que si c'est la bonne raison qu'on va se donner ensuite pour dire finalement on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant on laisse tomber les autres, ça pose un problème.
Julien Damant, il vous reste 30 secondes sur...
Parfait. Le revenu universel est une excellente idée qui a très peu de chances de se mettre en place. Il faudrait vivre sur la planète Mars pour que véritablement on y arrive. Il ne faudrait pas qu'on ait cet ensemble de protection sociale qui a ses vertus et ses défauts. Et parmi ces vertus, qu'on oublie, c'est que notre système est universel. Vous êtes pris en charge pour la santé, vous êtes pris en charge pour la retraite, quelle que soit votre situation en France. Donc le revenu universel, chouette, mais très difficilement envisageable. Hélas, peut-être.
Eh bien, prenons date pour un nouveau débat sur ce revenu universel. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Julien Damant, professeur associé à Sciences Po, fondateur et dirigeant de la Société de Conseil Éclair. Hélène Périvier, économiste à l'OFCE. Patrick Savidan, professeur de philosophie politique à l'Université de Poitiers, président de l'Observatoire des inégalités. Vos ouvrages seront bien sûr référencés sur notre site Du Grain à Moudre sur France Culture. Toutes ces informations, mais aussi la réécoute et le podcast. Les commentaires seront également bientôt réouverts. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Cyril Baer, Antoine Tricot, Céline Leclerc, Fanny Richer et Hugo Florent. À la réalisation, Delphine Lemaire. Prise de son ce soir, Jean-Frédéric. Demain, c'est Hervé Gardette que vous retrouverez aux manettes du Grain à Moudre avec cette question. Y a-t-il une colère noire française?